Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Bienvenue dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Il est 7h44 avec nous ce matin. Aurore Berger, qui est députée La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche.
Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Avant de parler de la remontée d'Emmanuel Macron dans un sondage IFOP Sud Radio et du grand débat, un mot sur l'incendie de Paris hier. En cause, une femme aux antécédents psychiatriques. Les psychiatres avaient lancé un cri d'alarme d'une façon générale il y a quelques semaines. De plus en plus de fous. De malades, donc dans les rues. La psychiatrie manque de moyens. Est-ce qu'il est temps vraiment de s'en préoccuper ?
On a un gros sujet depuis de nombreuses années sur la prise en charge de la psychiatrie dans notre pays. Il y a une de nos collègues, Martine Vonneur, qui justement présente ce matin à l'Assemblée nationale les conclusions de son rapport sur ces questions-là. La ministre a annoncé aussi plus de moyens pour la prise en charge de la psychiatrie, mais de fait, c'est un problème qui n'a que trop duré.
Oui, qui n'a que trop duré, parce que c'est vrai que le nombre de lits, ce que disent les spécialistes, les psychiatres, diminue alors que la population augmente et que on a une population qui souffre toujours, quoi,
des dépressifs, des bipolaires, etc. Un problème de détection vraisemblablement et d'un certain nombre de personnes qui devraient pouvoir être suivies médicalement, parce qu'on parle bien d'une question médicale avant tout, et qui aujourd'hui malheureusement ne le sont pas, ce qui est un danger pour eux-mêmes et un danger potentiel pour notre société.
Pour la société, notamment, on l'a vu avec des terroristes qui recrutent beaucoup des gens qui sont un peu déséquilibrés. On avait eu ce débat il y a quelques semaines, quoi.
Ce que je vous dis, c'est voilà, on a ce rapport parlementaire qui est présenté ce matin, donc qui permet aussi aux parlementaires justement de faire un certain nombre de propositions sur le sujet, plus de moyens qui vont être mis en place par la ministre de la Santé. Et il faut aussi que nous, on assume de dire que c'est un sujet qui est un sujet médical, qui n'est pas un sujet qui doit être laissé de côté, marginal, parce qu'il l'inquiéterait. Parce que quand on parle des sujets de psychiatrie, c'est vrai que ça suscite parfois de l'inquiétude. Non, c'est un sujet d'une nécessité absolue.
Pas tabou, en tout cas.
Et qui ne doit pas être tabou, parce que sinon, on a un certain nombre de personnes qui renonceront peut-être à bénéficier de soins dont ils ont besoin.
Oui, c'est ça. À propos de sujets pas tabous, on apprend aussi à l'Assemblée que les députés sont en train de combattre le Rassemblement National. Il y a une cellule qui est créée pour barrer la route à Marine Le Pen. De quoi s'agit-il ?
Alors, Stanislas Guérini, donc, qui est le délégué général de La République En Marche, le patron de La République En Marche, pour dire les choses simplement, a demandé à deux parlementaires en particulier, en effet, qui sont dans des territoires où l'extrême droite est particulièrement importante et fait des scores importants, en effet, de nous aider sur la riposte, en fait, tout simplement, parce qu'on voit bien à quel point l'extrême droite s'implante et s'implante durablement.
C'est l'extrême droite, c'est pas le Rassemblement National.
Pour moi, le Rassemblement National, c'est l'extrême droite.
Ils ont beau, vous êtes sûr ?
Oui, j'en suis certaine. Ils ont beau changer de nom.
En tout cas, du côté du Rassemblement National, on ne dit pas que c'est l'extrême droite.
Oui, mais ils n'ont jamais dit ça. Même quand c'était le Front National, ils n'assumaient pas de dire que c'était l'extrême droite. Oui. Mais de fait, oui, ils ont beau, encore une fois, changer de nom, changer de logo du parti. Ça reste les mêmes idées qui sont mises en œuvre. Ce sont des fondateurs aussi d'un parti politique. Un parti politique, ça a une histoire, ça a une trajectoire, ça a des fondateurs, ça a des partisans. Et clairement, oui, le Rassemblement National, comme le Front National, sont des partis d'extrême droite.
C'est aussi une méthode qui va dans le sens de ce que souhaite le président de la République, c'est moi ou le chaos, en quelque sorte.
Mais vous savez, quand on parle de ça et qu'on a l'impression qu'on dramatise les enjeux, le problème, c'est qu'on voit bien que c'est la réalité aussi de ce qui est en train de se passer dans notre pays. On a des oppositions qui sont extraordinairement faibles. Alors on dit c'est la faute de La République En Marche. Oui, alors on peut difficilement aussi se justifier en permanence d'avoir gagné des élections présidentielles et législatives. Mais c'est vrai qu'on a des oppositions qui sont très faibles. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes aussi a-t-il pu à ce point exister ? Parce que justement, on n'avait pas d'autres partis d'opposition, finalement. C'est devenu un parti, quelque part. En tout cas, certains essaient de le structurer comme ça. En tout cas, un mouvement d'opposition à l'action qu'on mène.
Vous le classez sur l'échelle politique, quelque part, ce mouvement des Gilets jaunes, ou
non,
pas du tout, extrême droite, extrême gauche ?
C'est difficile de le classer, parce que moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui se revendiquent de ce mouvement-là, qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient devenus abstentionnistes aux différentes élections. Et c'est un mouvement qui est très hétérogène, à la fois sociologiquement, dans ses attentes, dans ses revendications. Il y a des éléments qui sont communs sur les questions européennes, sur les enjeux de justice sociale ou justice fiscale, mais c'est difficile d'arriver à le classer.
Oui.
Je pense d'ailleurs que
c'est pas nécessaire. Vous les comprenez, vous, les Gilets jaunes ? Vous avez discuté avec eux ? Vous comprenez
Moi, je peux comprendre un certain nombre d'attentes qui ont été formulées. Ce que je comprends pas, c'est les modalités. C'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, entendre des colères qui sont légitimes, mais on peut jamais accepter la violence qui a été utilisée. Et de fait, on en est à la 13e semaine de mobilisation. radicalisation. On voit qu'on a des gens qui sont de moins en moins nombreux, mais qui sont de plus en plus radicalisés. Il faut quand même se dire les choses. Quand on continue à avoir ces mobilisations semaine après semaine, qui rendent aussi nos forces de l'ordre exsangues, ouais. parce que c'est quand même elles qui maintiennent l'ordre dans notre pays, qu'on a systématiquement des débordements violents. On a des dizaines de milliers de personnes qui sont en chômage partiel.
Les débordements violents, ce ne sont pas forcément l'apanage des vigiles jaunes. Hein. Il y a du côté des policiers aussi...
Je ne me permettrai pas de dire que, évidemment, que tous les gilets jaunes ont eu des actions violentes parce que ce ne serait pas vrai. J'en ai rencontré un certain nombre dont je sais pertinemment qu'ils ne cherchent pas à être violents et qu'ils ne l'ont pas été. Mais de fait, on a aussi, chez un certain nombre de ceux qui ont eu des actions violentes à l'encontre des forces de l'ordre, à l'encontre de nos commerçants, à l'encontre même des détériorations qu'on a pu avoir dans nos rues, des gens qui appartiennent à ce mouvement. Ouais. Donc il faut arriver à faire la part des choses sans générer d'amalgame, mais en disant aussi clairement ce qui s'est passé.
Parlons vrai, on dit les choses sur Sud Radio. Merci quand même aux Gilets jaunes, parce que finalement, il y a un grand débat national sur toutes les questions que finalement on n'abordait plus. La fiscalité et bien d'autres choses. Sans les Gilets jaunes, on ne l'aurait pas abordé. Et puis Emmanuel Macron qui regagne 6 points et l'État à 34%. Il peut remercier les Gilets jaunes ?
Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais commenté les sondages. Donc, vous savez, je ne les commente pas quand ils sont moins bons. Je ne les commente pas quand ils sont bien.
Mais comment vous expliquez cette remontée selon notre baromètre, IFOP Fiducial Sud Radio Paris Match ?
Je me dis qu'il y a peut-être aussi un phénomène de saturation qui a existé auprès des Français. C'est-à-dire que ça fait 13 semaines aussi de mobilisation, mais 13 semaines aussi que quotidiennement, on leur parle de ces mobilisations. Et je pense que peut-être ils ont envie aussi de passer à autre chose. D'autant plus qu'on a adopté quand même fin décembre ce qu'on appelait les mesures d'urgence, c'est 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. C'est pas rien. Hier est entrée en application la prime d'activité, c'est-à-dire en moyenne, c'est 100 euros net de plus à la fin du mois quand vous gagnez aux alentours du SMIC. Ça change concrètement votre fin du mois, justement. Et puis, on a le grand débat national. Oui. C'était un grand pari, au départ, le grand débat. Et on voit bien que ça fonctionne. C'est des milliers de débats, mais il n'y a que la France qui peut avoir ça.
Ce sont des meetings pour Emmanuel Macron.
Attendez, moi, je vois tous les débats qui existent partout en France.
Ça ressemble à des meetings.
Non, mais attendez, il y a plus de 3000 débats aujourd'hui partout en France. Il y a une carte, d'ailleurs, qui est sortie, qui les répertorie. On voit vraiment que tous les territoires s'en sont emparés. C'est organisé par les élus de la République. Mais les élus de la République, ils sont sans étiquette, ils sont de droite, ils sont de gauche, ils sont en marche. Oui. Tout le monde en organise. Moi, dans mon département, les différents maires qui en organisent ne sont pas tous en marche, quoi, sans faux. Et tous les citoyens ont le droit de venir.
Ça vous rassure que le chef de l'État est quand même à 34%, d'après ce sondage, quoi.
Mais très honnêtement, moi, je vous dis, si jamais dans 3 mois, la cote de popularité n'est pas la même, vous me redemanderez de commenter. Donc moi, à chaque fois, je commente pas, je me réjouis que le président de la République puisse remonter dans les sondages, mais je préfère éviter de les commenter.
Oui, d'autant que, quand même, au sein des députés marcheurs, il y a quelques dissensions. On l'a vu hier lors du vote sur la loi anti casseurs. Il y a eu des abstentions et fortement, quand même 50, ce n'était pas arrivé. Qu'est-ce que vous y voyez en fait derrière ?
Certains collègues ont en effet fait un choix qui n'est pas le mien. Moi, j'ai voté de manière très claire ce texte parce que je pense que c'est un texte qui est nécessaire au regard de la nature des mobilisations qui a beaucoup changé. On a des mobilisations qui sont de plus en plus violentes. Et ça date pas des gilets jaunes. Souvenez-vous de la loi travail.
On dit qu'il y a des dérives autoritaires et que si jamais le pouvoir changeait de main, ça pourrait être dangereux.
Moi, je crois absolument pas à cet argument-là pour une raison simple. C'est que déjà, il faut tout faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de régime autoritaire dans notre pays. Et si jamais un jour ça arrivait, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils auraient besoin de lois existantes ou qu'ils les changeraient ?
Aurore Berger, vous êtes membre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Vous connaissez aussi les sujets sur les médias. Le chef de l'État, la semaine dernière, Emmanuel Macron, a dit qu'il voulait qu'il y ait, pourquoi pas, une structure pour travailler sur la fabrication, la vérification de l'information. C'est une bonne chose, ça ? Est-ce qu'on va pas arriver à la Pravda ?
Non, il n'y a pas de Pravda dans notre pays. Je pense que la presse est libre, vous en êtes évidemment un exemple.
Oui, mais est-ce qu'on sera vraiment libre par la suite ?
Non, mais moi je pense que ce qui est essentiel, c'est de se poser la question de comment on peut encore gouverner à l'heure des réseaux sociaux, comment on peut encore faire campagne à l'heure des théories du complot et des fausses informations. Mais lutter contre les fausses informations, pour moi, ça passe par deux choses. Mmh. Ça passe par l'éducation à l'information dès le plus jeune âge. Et ça, c'est pas dire qu'il y a une vérité d'État, c'est juste dire que c'est pas la même chose de s'informer par une pluralité de médias et de s'informer uniquement sur des réseaux sociaux qui choisissent pour nous ce qui nous conforte dans les idées qu'on a déjà. Ça, c'est pas la même chose. Et deuxième point, ça passe par les médias eux-mêmes. Et il faut évidemment qu'on ait des médias qui soient forts dans notre pays, dans la diversité, la pluralité des opinions. Mais je pense qu'on a un enjeu de rétablissement de la confiance qui concerne la vie politique française et qui concerne aussi les médias. Mmh. Il faut faire en sorte, si on veut
de
lutter
bâillonner,
contre,
de verrouiller.
Bien sûr que non. Oui. Bien sûr que non. Au contraire, je pense qu'on a besoin de plus d'ouverture, de plus de pluralité. On a eu l'impression avec les réseaux sociaux que ça allait être une ouverture sur le monde formidable. C'est en fait un enfermement puisque vous ne voyez plus que ce qui vous intéresse déjà.
Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Aurore Berger.
Oui, parmi les personnalités politiques les plus invitées dans les matinales, vous êtes la seule femme sur 10 hommes, et vos passages suscitent souvent des réactions extrêmement virulentes sur les réseaux sociaux, même par courrier. Comment on le vit ?
Alors déjà, il n'y a pas assez de femmes invitées. Ouais. Ça, c'est une certitude, donc il faut qu'il y en ait. On a 50% de femmes députées dans notre groupe, donc ça veut dire que on a un vivier de femmes qui est beaucoup plus important. Donc je ne peux que vous inciter à inviter plus de femmes dans les matinales. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est devenu quand même pour beaucoup une poubelle. C'est-à-dire que les gens se cachent derrière un anonymat pour dire des choses qu'ils n'oseraient jamais dire.
Mais ça vous fait quoi, vous, quand vous lisez ça ?
Bah,
est-ce que c'est le jeu politique ou est-ce
non,
que...
mais parce que en fait, ça fait pas partie du jeu de se faire intimider, de se faire menacer ou de se faire insulter. Ceux qui disent finalement, après tout, vous êtes des hommes et des femmes publiques, donc vous l'avez cherché. Non, je cherche pas en venant ici m'exprimer et en faisant valoir ce qui sont mes convictions à me faire insulter. Mais je sais qu'en disant juste bonjour sur Twitter, j'aurai des réactions qui sont des réactions haineuses.
Pourquoi vous restez sur Twitter ?
Et c'est une vraie question. C'est une vraie question que je me pose, très sincèrement, de savoir s'il faut ou pas qu'on reste. Les hommes et les femmes politiques, les journalistes, les artistes, parce que ça génère en effet des réactions de haine. Après, la difficulté, c'est que si on ne reste pas, qui sera encore présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on n'aura plus justement que ces messages de haine ?
Aurore Berger, vous pourriez quitter Twitter. Alors, c'est ce que vous annoncez ce matin.
Je pense qu'on a un vrai sujet, ça réjouira peut-être certains d'ailleurs qui l'entendront, mais je pense qu'on a un vrai sujet qui est sur ces plateformes. Elles doivent accepter de coopérer. On ne peut pas systématiquement avoir des messages de haine. Moi, je fais le test chaque semaine.
Bon, vous quittez, vous restez.
Mais c'est une vraie question, mais moi je lance un appel aussi aux plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. Chaque semaine, je signale des messages qui sont des messages de haine, qui sont des messages homophobes, qui sont des messages racistes, qui sont des messages sexistes. Et systématiquement, on me dit, ça n'enfreint pas nos règles d'utilisation. Donc à un moment, elles doivent aussi nous aider à faire le ménage.
Eh ben, y en a un qui va rester, en tout cas c'est votre invité surprise.
Oui, bonjour, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Aurore, mais appelez-moi Monsieur Bruni. Je veux dire que je te soutiens dans ton combat contre les fausses déclarations qui te sont attribuées. Moi-même, j'ai été victime de fausses déclarations calomnieuses. J'ai jamais dit Castropovko, c'est impossible, il n'y a pas une seule faute de syntaxe. J'ai dit, dégage l'arbin. Alors par contre, la phrase, si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité, on dirait du Sylvester Stallone, et je crois que ça te rappelle quelqu'un. Alors, voici ma question. Toi qui as déclaré en 2013, j'admirais le Sarko de 2007, est-ce qu'en 2019, tu pourrais voter pour le Sarko 2022 ? J'ai jamais décidé de revenir en politique. Vas-y, réponds.
J'ai voté pour le Nicolas Sarkozy de 2007 et 2012. Je l'assume et je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Je ferai le même vote en 2007 et en 2012. Mais j'espère et je souhaite surtout que le président de la République, Emmanuel Macron, soit à nouveau candidat en 2022.
Oui. Mauvaise réponse.
Le clin d'œil Sylvester Stallone, pourquoi ?
C'est votre papa qui fait la voix française.
Exactement, qui est comédien. Et,
voilà. Et votre
Sylvester
maman
Stallone.
Aussi.
Et ma maman qui est aussi comédienne.
Ouais, et qui fait la voix de ?
Un certain nombre de comédiens, notamment sur des séries que vous connaissez, dans Amour, Gloire et Beauté, New York, qui est spécial. Lizer Leclerc, notamment.
Voilà, et Aurore qui chope des voix dans les élections.
Alors, un commentaire.
Je suis content de voir ma petite fille parce que je n'ai pas l'occasion de la voir tout le temps, alors ça me fait plaisir. Un bisou du papa.
Voilà. Oui. Merci, Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche, était l'invitée ce matin de Sud Radio.
Et merci à Denis Moreau qu'on retrouve à 8h20 sur Sud Radio. 7h57, bon réveil, c'est Sud Radio.